VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 26 août 2015. En direct de Washington, Idrissa Seroudia et Anne Albusson. Tout d'abord, les titres.
Au Burkina Faso, les partisans de Blaise Compaoré ont été déclarés non éligibles aux législatives par le Conseil constitutionnel.
En Côte d'Ivoire, 33 candidats, dont 3 femmes, ont déposé leur dossier pour la présidentielle du 25 octobre.
En RDC, le président Joseph Kabila a promulgué mardi la loi sur la répartition des sièges nécessaires à l'organisation d'élections locales.
Au Soudan du Sud, c'est aujourd'hui que le président Salva Kiir doit signer l'accord de paix visant à mettre fin à 20 mois de guerre civile dans son pays.
Ayoub El Khazani, le jeune Marocain qui a ouvert le feu dans un train Thalys Amsterdam-Paris, a été inculpé et écroué dans la nuit de mardi à mercredi pour attaque préméditée en relation avec une entreprise terroriste.
Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso a déclaré mardi 42 partisans du président déchu Blaise Compaoré, dont le chef de son parti, inéligibles aux législatives prévues avec la présidentielle du 11 octobre. Ces pro-Compaoré sont reconnus coupables d'avoir activement soutenu un projet de modification constitutionnelle qui a été fatal au régime Compaoré. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Cependant, les partis de l'ex-majorité ont toujours la possibilité de remplacer les candidats déclarés inéligibles par de nouveaux candidats.
En Côte d'Ivoire, 33 candidats, dont 3 femmes, ont déposé leur dossier pour l'élection présidentielle du 25 octobre, cruciale pour la stabilisation du pays après la crise post-électorale de 2011 qui a fait 3000 morts. C'est ce qu'a annoncé mardi la commission électorale.
En RDC, République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a promulgué mardi la loi sur la répartition des sièges nécessaires à l'organisation d'élections locales, indiquant qu'il réaffirmait ainsi sa volonté d'amener le peuple congolais aux élections conformément au calendrier global rendu public par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce qu'indique une ordonnance lue mardi soir sur la télévision publique. L'opposition a plusieurs fois réclamé le report des élections municipales et locales prévues en octobre.
Et toujours au Congo, le casque bleu congolais de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, accusé de viol, a été ramené à Kinshasa et confié à la justice militaire. C'est le ministre de la Défense de la RDC qui l'affirme. Selon Émile Goy Moukena, qui s'exprimait de retour de Bangui, il ne s'agit pas de 3, mais d'un seul élément du contingent militaire congolais de la MINUSCA qui est accusé de viol. Il ajoute par ailleurs que les enquêtes sont en cours et que si les faits sont établis à sa charge, ce policier subira toute la rigueur de la loi. On écoute le ministre congolais de la Défense au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il ne s'agissait même pas d'un élément des forces armées congolaises, mais d'un policier. On me l'a désigné. Les enquêtes continuent. Mais il y a des rumeurs. Le même jour, j'en ai fait un prisonnier, moi, que ce casque bleu-là devait quitter la terre centrafricaine ce jour-là. Et ce jour-là, il est parti. Je l'ai amené. Et lorsqu'on est arrivé ici à Ndjili, le général Kayimbi s'est occupé de lui. Qu'aujourd'hui, on dise, les soldats de la RDC, les FARDC, c'est juste des coups de teinte pour lutter contre la montée en puissance de notre armée. Et moi, j'ai dit, je déclare haut et fort que s'il y a un nouveau cas, je peux encore descendre moi-même sur le lieu. Mais sinon, nous avons déjà diligenté des enquêtes, même pour ce premier cas-là. Nous ne défendons pas des gens qui commettent des crimes. Sur cette question, nous sommes stricts et sévères.
Le ministre congolais de la Défense, Émile Goy Moukena, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La crise politique persiste en Guinée-Bissau, où le Parlement vient d'approuver une résolution exigeant du président José Mario Vaz le départ du nouveau Premier ministre Bassirou Dia et la nomination à sa place d'un autre candidat proposé par le PIGC, le parti au pouvoir. De Bissau, notre correspondant Nouha Mankali.
Dans la résolution approuvée par l'Assemblée nationale populaire, cette instance a manifesté son désaccord avec le décret présidentiel numéro 6/2015 qui a nommé le nouveau Premier ministre Bassirou Dia. L'Assemblée nationale populaire a proposé une solution qui devra passer par deux hypothèses. La première est que le président de la République, José Mario Vaz, doit nommer un nouveau Premier ministre qui sera proposé par le Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAGC, parti vainqueur des dernières élections à la place de Bassirou Dia. Face à cette crise sans solution, le président de la République s'est réuni avec les différentes forces de la nation. Cependant, Miguel Trouvada, représentant spécial de Ban Ki-moon dans le pays, à sa sortie de cette rencontre avec le chef d'État, a souligné qu'il a informé José Mario Vaz que cette crise va être discutée le 28 prochain au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a invité Mario Vaz à y prendre part, mais ce dernier a manifesté son indisponibilité suite à la situation politique qui s'est en Guinée-Bissau. Nouaman Kalibissau, VO Afrique.
Crise sud-soudanaise, c'est ce mercredi que le président Salva Kiir doit signer l'accord de paix visant à mettre fin à 20 mois de guerre civile dans son pays. L'ONU menace d'agir immédiatement au cas où le dirigeant sud-soudanais ferait faux bond. Les précisions de Michel Joseph.
Dans une lettre obtenue par la VOA, l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, qui assure la médiation dans cette crise, affirme que l'accord sera signé ce mercredi à Juba, la capitale sud-soudanaise. L'ancien vice-président sud-soudanais, Riek Machar, chef de la rébellion, l'avait paraphé le 17 août à Addis Abeba, mais le président Salva Kiir s'y était refusé, estimant que les termes de l'accord ne permettaient pas de parvenir à une paix durable. Son gouvernement continue d'émettre des réserves concernant notamment le partage de pouvoir, la démilitarisation de Juba et la supervision étrangère de la commission chargée de surveiller la mise en œuvre de l'accord de paix, a fait savoir son porte-parole. Pour leur part, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont fait savoir qu'ils sont prêts à agir immédiatement si le président Kiir ne signe pas l'accord mercredi comme prévu.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les marchés en Asie ont été marqués par des hauts et des bas, mais étaient surtout en baisse après que la réduction des taux d'intérêt par la Chine n'a pas réussi à calmer les inquiétudes des investisseurs sur la santé de la seconde économie du monde. La bourse de Shanghai a commencé une journée volatile en petite hausse, mais vers la mi-journée, elle était erratique et avait perdu un peu plus de 1%. Ailleurs en Asie, les transactions étaient pour la plupart en baisse, y compris à Séoul, Sydney et Taïwan. Légère hausse, en revanche, à Tokyo, à l'image des places européennes, dopées mardi par les mesures de relance annoncées par les autorités chinoises. Quant à la bourse de New York, elle a clôturé en repli hier, optant pour la prudence.
Ayoub El Hazani, le jeune Marocain qui a ouvert le feu dans un train Thalys Amsterdam-Paris, a été inculpé et écroué dans la nuit de mardi à mercredi pour une attaque préméditée qui aurait pu déboucher sur un carnage. Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat, association de malfaiteurs et détention d'armes, le tout en relation avec une entreprise terroriste, a affirmé à l'AFP une source judiciaire. Conformément aux réquisitions du parquet, il a été placé en détention provisoire. Le procureur de la République de Paris, François Molin, a estimé que les premières investigations avaient permis d'établir que le projet du jeune assaillant de 25 ans apparaissait ciblé et prémédité. Monsieur Molin a balayé comme fantaisiste les dénégations du suspect qui a affirmé avoir trouvé fortuitement les armes dans un parc de Bruxelles où il dormait avec d'autres SDF et avoir voulu rançonner les voyageurs du Thalys Amsterdam-Paris. El Hazani avait été maîtrisé le vendredi 21 août par des passagers alors qu'il sortait des toilettes du train armé d'une Kalachnikov et de 9 chargeurs pleins, quelques 270 balles, de quoi commettre un carnage, d'un pistolet Luger, d'un cutter et d'une bouteille de 50 centilitres d'essence.
Crise migratoire en Europe, Berlin a renoncé à renvoyer des migrants syriens vers leur pays d'entrée dans l'Union européenne, une mesure prise pour alléger le fardeau pesant sur ses voisins débordés par des flux de plus en plus importants de migrants. Eddie Sango.
Annoncée hier, la décision était déjà en fait discrètement mise en œuvre de longue date. Elle constitue pour la Commission européenne un acte de solidarité. Pour la porte-parole de la Commission, Nathalie Bertrand, le geste de Berlin est une reconnaissance du fait que l'on ne peut laisser les États membres situés aux frontières extérieures gérer seuls l'afflux exceptionnel des migrants à l'instar de la Grèce ou de l'Italie. Il s'agit du seul cas connu parmi les États membres, a-t-elle affirmé. Appelant à une plus juste répartition de l'accueil des réfugiés au sein de l'Union européenne, Angela Merkel, la chancelière allemande, a lors d'un dialogue avec des citoyens reconnu que l'Europe est dans une situation qui n'est pas digne de ce continent. Le flux des migrants s'est fait de plus en plus pressant en Europe malgré l'érection de murs parfois métalliques aux frontières des pays de la route des Balkans. Lundi, la Hongrie a enregistré les chiffres records de 2100 personnes arrivées en un seul jour.
Et maintenant, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Conséquence de la chute mondiale des cours du pétrole, la NOCAL, la Société Nationale de Pétrole du Libéria, a annoncé hier le licenciement de tout son personnel pour éviter la faillite. La NOCAL est un des principaux contributeurs au budget national et aux initiatives de reconstruction du pays depuis la fin en 2003 de 14 ans de guerre civile ayant fait 250 000 morts. Le pays nourrit un grand espoir de relance de son économie grâce à des nouveaux gisements découverts notamment en mer ces dernières années. La chute des cours du pétrole arrive à un bien mauvais moment, alors que le pays commence à se remettre des ravages de l'épidémie d'Ebola. Suite logique de la rénovation du port de Brazzaville, les ports secondaires congolais font l'objet d'un programme de modernisation. Cette mise à niveau concerne surtout les ports fluviaux du nord du pays, précise Jeune Afrique, puisque le réseau fluvial de la partie du sud n'est pour l'essentiel accessible qu'en pirogue. En revanche, les cours d'eau du nord, comme le fleuve Congo et les rivières Oubangui, Likuala ou Mosaka, peuvent être empruntés par des bateaux à fort tonnage. Ils sont jalonnés de ports essentiels au désenclavement interne du pays, certains permettant également des échanges avec les pays voisins.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Afrobasket 2015, 16e de finale.
Oui, l'Égypte a laminé le Zimbabwe 102 à 62. Victoire également de l'Angola sur la RCA 62 à 61. La Côte d'Ivoire a été battue par 57 à 76 par le Mali. Et lors du derby maghrébin entre la Tunisie et le Maroc, c'est le pays hôte, la Tunisie, qui a eu le dernier mot, 69 à 68.
En football, barrage de la Ligue des champions en Europe.
Oui, Monaco, quart de finaliste de la précédente édition, a été éliminé hier soir par Valence, qui devient le cinquième club espagnol qualifié pour la phase de groupe. Battu 3-1 la semaine passée à Mestalla, l'AS Monaco a marqué les deux buts nécessaires pour réussir son pari, mais elle en a encaissé un, si bien que sa victoire s'est avérée insuffisante. Dans les autres rencontres de ce mardi, le Shakhtar Donetsk s'est qualifié en concédant un nul 2-2 à Lviv après avoir été mené 2-1, suffisant pour obtenir le sésame. Autre habitué de la C1 ces dernières années, le FC Bâle de Suisse est lui en revanche éliminé, pénalisé par son nul 2-2 concédé à domicile lors du match aller à Tel Aviv face au Maccabi. Il a été contraint à un nul 1-1. Le Celtic Glasgow, vainqueur de la C1 en 1967, s'arrête également là, battu 2-0 à Malmö, qui efface sa défaite de l'aller 3-2 en Écosse. Enfin, le Dynamo Zagreb jouera la C1 après sa facile victoire 4-1 face au Skanderbeu Kerché, confirmant celle de l'aller 2-1.
Athlétisme, victoire facile sur 200 mètres du Jamaïcain Usain Bolt.
Oui, Usain Bolt et l'Américain Justin Catlin, tous deux d'une facilité déconcertante, ont tranquillement assuré leur place en demi-finale du 200 mètres. C'était mardi à Pékin pour les mondiaux d'athlétisme. Deux jours après son sacre sur 100 mètres, Bolt s'est imposé dans la troisième série en 20 secondes 28 centièmes en coupant totalement son effort dans les 30 derniers mètres. Ses premiers 100 mètres ont été particulièrement impressionnants.
Enfin, cyclisme.
Oui, l'Espagnol Alejandro Valverde, âgé de 35 5 ans, a remporté ce mardi la 4e étape du Tour d'Espagne, longue de 209 km entre Estepona et Villar de la Frontera, tandis qu'Esteban Chavez conserve le maillot rouge de leader. L'expérimenté puncher de la Movistar s'est imposé en patron devant le Slovaque Peter Sagan, vainqueur la veille à Malaga, et l'Espagnol Daniel Moreno.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les proches de Compaoré doivent-ils participer aux élections d'octobre au Burkina Faso? Eh bien, le Conseil constitutionnel du Faso a tranché, selon une décision rendue hier soir, les candidatures des membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré et les députés de la dernière législature acquis à la cause de l'ancien régime sont invalidées pour les législatives d'octobre. Cette décision a été rendue sur la base du nouveau code électoral voté par le CNT, le Parlement de transition, et qui exclut des prochaines élections les proches de l'ancien régime ayant soutenu la modification constitutionnelle. Réaction ce matin de Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF RDA. Il a été exclu. Au micro de Bagassi Koura, il dit se soumettre à la décision de la Haute Cour.
Notre formation politique, la DFRDA, nous sommes des légalistes et nous avons une devise qui est paix, liberté et justice. En tant que légalistes, nous prenons acte de la décision du Conseil constitutionnel et nous nous inclinons devant cette décision, soucieux de la préservation de la paix, de la concorde et de la cohésion nationale dans notre pays, le Burkina Faso. Notre formation fera tout ce qui est en son ressort pour œuvrer à apaiser les esprits et que la réconciliation nationale soit une réalité dans notre pays.
Et est-ce que vous comprenez cette décision?
Disons que nous avons pris acte de la décision. Vous savez que les décisions du Conseil constitutionnel ne font pas l'objet de recours et donc cette décision s'impose à nous en tant que décision rendue par le Conseil constitutionnel et nous en prenons acte et nous nous en tiendrons à cela.
Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Nous allons appliquer les règles de loi, puisque la loi prévoit que on peut, lorsque les candidats sont déclarés inéligibles, être remplacés. Nous allons procéder au remplacement donc de ces candidats, et puis nous allons continuer à mener notre activité et à mettre à cœur ce que nous avons toujours voulu pour notre pays, le Burkina Faso, la paix, la liberté et la justice, parce que nous pensons que ça, c'est plus important que les responsabilités que nous avons. Et si nous faisons de la politique, c'est pour aider à construire notre pays.
Et vous savez que c'est une jurisprudence, hein, et probablement votre candidature à la présidentielle sera rejetée.
Disons que le Conseil constitutionnel est souverain pour décider, et donc nous attendrons et nous aviserons. Mais en tous les cas, comme je l'ai dit, nous, à la DFRDA, ici, il ne s'agit pas de question de personne, il s'agit de question de principe, il s'agit de question d'un pays et de l'intérêt d'un pays, de la cohésion et de la paix dans un pays qui est au-delà des intérêts partisans.
Et est-ce que vos militants vont comprendre ce discours de paix?
Nous allons en tout cas nous évertuer à passer le message et nous avons déjà commencé à passer le message auprès de nos militants.
Qui est?
Il y a celui que nous devons être des vecteurs de paix et que notre formation politique a toujours travaillé à contribuer à la paix et qu'on ne nous dénie pas le droit de nous présenter et que nous pouvons donc procéder au remplacement des personnes qui ont été déclarées inéligibles.
Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF RDA, était joint à Ouagadougou par Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Au Burundi, 20 membres, dont 6 anciens ministres, composent le nouveau gouvernement mis sur pied par le président Pierre Nkurunziza. La nouveauté, c'est l'entrée de 5 ministres de l'ancien chef rebelle Agathon Rwasa, aujourd'hui premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il avait condamné les élections, les jugeant inconstitutionnelles. Les défis sont immenses et la nouvelle équipe doit avoir les épaules assez larges pour les supporter. VO Afrique a joint à Lomé Freddy Kourikiye, spécialiste de la gouvernance et du dialogue politique.
C'est d'abord reconnaître l'effort d'avoir un gouvernement réduit, 20 membres. On était habitué à bien plus que ça. La deuxième chose sur le caractère inclusif Je ne sais pas si la scène politique burundaise ne se réduit qu'au CNDD, FDD et au FNL. Je remarque également que le FNL qui entre au gouvernement, qui occupe le quart des postes, c'est l'aile dirigée par Agathon Rwasa. Or, on sait bien qu'en réalité, Agathon Rwasa n'est plus leader dans quelconque parti que l'on voit. Une autre observation, c'est que le même Agathon Rwasa avait rejeté les résultats de ce processus électoral. Alors, le fait qu'il soit rentré peut être interprété comme un effort de discussion ou même de négociation de la part du CNDD-FDD. L'inclusivité dont on parle aurait été complète si le gouvernement eût accueilli plus que Rwasa, ça veut dire tous les autres partis qui avaient rejeté ces élections.
Le Burundi fait face à beaucoup de défis. Est-ce que vous pensez que c'est une équipe capable de relever ces défis?
Les défis sont immenses. Vous vous rappelez d'abord que la communauté internationale n'a pas, dans sa globalité, accueilli de la manière la plus chaleureuse les résultats de ce processus électoral et que le Burundi doit faire face probablement à une certaine mise à l'écart de la part de ses partenaires. Ça dit qu'il faudra avoir les épaules suffisamment larges pour défendre l'image ternie. Est-ce que la qualité obtenue, s'il est obtenue, est-ce que ces hommes et ces femmes ont les moyens nécessaires pour relever ces défis? Sur cela, nous observons une difficulté, c'est que manifestement, si les partenaires ne répondent pas, le Burundi n'aura pas entièrement les moyens de surmonter tous ces défis. Je ne sais pas vraiment si le retour de l'un ou de l'autre soit la réponse entière à ce problème.
Il y a une note sortie par le ministère des Affaires étrangères. Peut-on parler d'une mise en garde ou d'un éventuel rapprochement avec les partenaires internationaux?
J'ai lu le contenu qui m'a un peu surpris. Le gouvernement du Burundi veut mettre en garde ses partenaires. Ça veut dire que lorsqu'on sort des notes pareilles, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit. On a une difficulté qui aujourd'hui transparaît à travers cette note. C'est que le dialogue entre le gouvernement du Burundi et ses partenaires n'est pas au beau fixe.
Freddy Kourikier, spécialiste de la gouvernance et du dialogue politique, joint à Lomé par Eric Manirakiza. La 14e édition du Forum de l'AGOA se poursuit depuis lundi à Libreville au Gabon. L'AGOA permet aux pays d'Afrique subsaharienne d'exporter environ 5000 produits vers les États-Unis sans frais de douane. Reportage de Jean-Revis Dabani.
À Libreville, plusieurs délégués étrangers sont venus parler du Made in Africa. L'occasion pour les participants de se pencher sur ce système d'accord destiné à ouvrir le marché américain aux exportations africaines. Alors que le Kenya, la Tanzanie exportent déjà leurs produits sur le marché américain, les pays comme le Gabon, hôte du 14e forum de l'AGOA, n'exportent rien hormis les hydrocarbures. Pour autant, il existe des beaux exemples que l'on peut assez facilement trouver au Gabon. Du poisson frais transformé en poisson salé, textile à base de raffia, les initiatives ne manquent pas, mais elle est bien loin d'étalonner le coton tanzanien. Colette Mudouma transforme du poisson frais en poisson salé dans une banlieue de Libreville. L'initiative américaine l'a non seulement séduite, mais lui donne aujourd'hui de grandes ambitions.
En temps normal, nous ne vendons pas comme ça. Soit on le découpe et on va livrer dans des sacs. Mais là, nous voulons présenter un produit un peu plus éligible. C'est pourquoi vous nous avez vus tout à l'heure en train de découper, mettre dans des sachets, mettre des étiquettes. C'est aux normes de l'AGOA. Donc, ce plus-là que nous voulons présenter au Forum AGOA, effectivement, c'est pour accrocher nos bailleurs de fonds, nos partenaires.
Dans la maroquinerie, les entreprises gabonaises n'exportent rien sur le marché américain. Mais pour autant, artisans qui fabriquent des sacs, des chaussures à partir de la peau de bœuf, le Forum de Libreville pourrait être un déclic.
Pour nous, AGOA représente beaucoup de choses. Parce que pour commencer d'abord au Gabon, on s'est dit qu'en Gabon, il n'y a que le bois et le pétrole. En tant que nous aussi, on a l'art qu'on peut bien vivre avec. Donc pour nous, AGOA, on a beaucoup d'opportunités qui peuvent s'ouvrir, les marchés vers les États-Unis d'Amérique. Et pour se faire connaître aussi sur le plan international. Parce que nous, c'est vrai, on fait un peu l'art un peu depuis. Moi, c'est depuis 2011. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'exprimer dans ce genre d'événements. Pour moi, c'est comme pour nous les artistes, on peut dire c'est une coupe du monde comme on voit les autres jouer au foot.
Le Forum de Libreville permet de pérenniser le partenariat pour le commerce et l'investissement entre les États-Unis et l'Afrique. Signe du volontarisme de Washington, près de 500 délégués américains prennent part à ce forum qui s'achève jeudi. Libreville, Jean-Revis Damani, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur l'African Growth and Opportunity Act, l'AGOA, qui fête ses 15 ans. Le Gabon accueille cette semaine le forum sur cette loi américaine qui encourage les exportations. Quels ont été les apports de l'AGOA? Comment les entreprises africaines peuvent en tirer davantage profit? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Niger, au moins 4 personnes sont décédées ce mois-ci suite aux inondations causées par de fortes pluies. Même si depuis une semaine les pluies sont devenues rares, la situation continue d'inquiéter. Reportage à Niamey d'Abdulrazak Idrissa.
La dernière pluie enregistrée dans la capitale Niamey remonte au 17 août dernier. Elle était très forte et a occasionné des inondations, notamment dans les quartiers et villages périphériques tels que Tondubia, où des travaux d'aménagement d'une route en cours dans le village ont compliqué la situation, comme le témoignent ses habitants.
Depuis l'ouvrage de Satom, c'est en ce moment que le calvaire a commencé. Parce que dans le temps, moi je suis là depuis 80, je connais Tondubia jusqu'à Losogungu. En tout cas, il y avait des cours d'eau qui passaient jusqu'au fleuve. Sans aucun problème. Dès qu'il pleut, 30 minutes après, il n'y a rien, les gens passent, il n'y a aucun problème. Mais depuis l'ouvrage de Satom, tout est capoté.
Là où on est menacé, là, le ravin, là, on devrait continuer ce ravin-là. Et qu'il y a certaines populations qui ont refusé qu'on creuse et pour pouvoir continuer. Sinon, il y a l'autre ravin, ça doit rallier là-dessus. Donc maintenant, eux, ils ont refusé. Nous, on a essayé qu'ils puissent être d'accord pour que ça ne puisse pas nous menacer. Et maintenant, voilà les conséquences.
Alerté ce jour, le maire central de la ville de Niamey, Hassan Seydou, est allé aussitôt sur les lieux.
Nous avons pris la décision, effectivement, d'informer immédiatement la SATOM pour qu'ils viennent voir, effectivement, le sens du découlement des eaux et éventuellement l'agrandissement des différentes traversées pour aller jeter ces eaux-là dans le fleuve. Et nous allons nous concerter immédiatement avec nos collègues de la région pour voir l'aide immédiate qu'il faut apporter à ces personnes-là avant de règlement technique de ces problèmes-là. On a prévu ce genre de désagrément et des dispositifs ont été mis en place pour effectivement reloger éventuellement tous les sinistrés dans des endroits bien précis, quartier par quartier.
Il faut noter qu'à la date du 12 août dernier, plus de 20 000 personnes sont touchées par les inondations sur l'ensemble du territoire nigérien, selon des données de la Direction de la Protection Civile. Elles ont fait au moins 4 décès, 2 170 habitats endommagés, 450 hectares de sites agricoles inondés et 4 tonnes de vivres perdues. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans marquera le 29 août le 10e anniversaire de l'ouragan Katrina et des inondations catastrophiques qui ont dévasté cette ville de la Louisiane. Aujourd'hui, elle est mieux protégée, le génie militaire américain ayant construit des digues plus solides à la place de celles dont la rupture avait envoyé des trombes d'eau dans les rues et les maisons. Les précisions de Timothée de Nangmaï.
10 ans après que leur maison eut été submergée par les flots, Renata et sa famille y poursuivent les travaux de réfection. Nous travaillons toujours sur elle, mais nous l'avons maintenant rendue habitable. L'eau jaillissant des brèches dans les digues avait complètement inondé ce quartier en août 2005. Et alors que beaucoup d'habitants ont reconstruit leurs maisons, des terrains vagues et de nombreuses structures en ruines sont encore visibles. Après Katrina, le génie militaire américain a construit de nouvelles digues, plus solides parce que plus profondément ancrées, le genre de digues qu'on aurait dû construire à l'origine, s'insurge de nombreux habitants de la ville. Parmi eux, Andy Coplin, maire adjoint de la Nouvelle-Orléans. Ce fut la plus grande défaillance de l'ingénierie dans l'histoire. Après tout, Katrina n'était pas une tempête plus puissante que celle contre lesquelles les digues initiales avaient été construites. Martez Lynch et sa famille vivent à proximité de l'une des nouvelles digues. Je me sens un peu mieux au sujet des digues. Je veux dire que le génie militaire et tous ceux qui sont venus aider ne pouvaient pas tout faire. Mère Nature suivra son cours si elle le désire. Il faut dire que l'homme, par ses infrastructures, a perturbé la nature en réduisant les zones marécageuses et les îles barrières protégeant la Nouvelle-Orléans. Kyle Graham travaille pour l'Agence louisianaise de protection et de restauration des zones côtières. L'une des choses que font les îles barrières et nos marais est qu'ils brisent les vagues en cas de tempête, de sorte que l'impact des flots sur certaines communautés est moins important qu'il ne le serait autrement. Selon Kyle Graham, les autorités étatiques et fédérales travaillent ensemble pour restaurer les barrières côtières et aider ainsi à prévenir la tragédie provoquée en Louisiane il y a 10 ans par l'ouragan Katrina.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Au micro, Idrissa Sedudia. Nos remerciements à Anne Alveson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.